tout de suite l'émission Dans le Rétro. Dans le Rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean,
accompagné de Chantal Krolik-Zack,
en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire c'est de l'émission Dans le Rétro.
Patrick, bonjour.
Bonjour Chantal, et je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Dynamo, et je leur souhaite au nom de l'Association des Amis du Blanc et de sa région une excellente année 2026 qui leur permettra de découvrir ou de se remémorer notre histoire locale et brénouze, en s'abonnant d'ailleurs à notre page Facebook qui vient d'être relancée, ou en venant visiter en saison, c'est-à-dire cet été, notre maison du patrimoine. Aujourd'hui, Chantal, tu vas nous conter les libres destinées des sœurs Goré, qui, de Mézières-en-Brenne, sont montées à Paris pour assumer des vies d'artistes bien remplies dans les théâtres de la capitale. Une histoire tout à fait étonnante.
Effectivement, ce qui explique l'introduction musicale qui vient d'être entendue avec les trois coups des pièces de théâtre. Qui aurait imaginé que ce nom très commun et peu flatteur, Goré, est traversé le 19e siècle en se faisant tout d'abord connaître dans un écrit de Georges Sand pour perdurer grâce aux voix d'artistes lyriques et dramatiques de deux sœurs qui se produisirent dans les théâtres parisiens. Chacune prit un nom de scène plus séduisant dans l'air du temps des possibles. Transportons-nous dans les froufrous, les intrigues et ces vies hautes en couleurs traversées par les révolutions industrielles et les voyages qui étaient alors facilités. Originaire du minuscule village de Folly, au nom prédestiné, situé dans la Somme entre Amiens et Roye, les ancêtres de Timothée Goré, leur père, étaient traditionnellement des faiseurs puis des fabricants de bas. Le fils de Sébastien et de Marie-Félicité sera, lui, gendarme.
Et c'est le père.
Et c'est le père, toujours. Il faut s'intéresser au père pour un peu connaître après le pourquoi du comment les filles sont montées à Paris. Plus précisément, brigadier provisoire de gendarmerie à cheval. Muté en Vendée, à Saint-Fulgent, il épouse Marie Bénigne le 19 janvier 1835 à l'hôtel de ville de ce qui était à l'époque Bourbon-Vendée, c'est-à-dire la future La Roche-sur-Yon. Léontine, sa fille aînée, naît dans la caserne paternelle, donc le 30 septembre 1837. Timothée est nommé à Mézières-en-Brenne en 1938 ou 1939. 1838 ou 1839. J'ai un siècle, un siècle d'avance. Donc, avec sa famille, il emménage dans la gendarmerie qui était alors placée dans les dépendances de l'ancien château. Composé de trois chambres à feu, trois écuries et trois greniers, les lieux sont plutôt spartiates. Sa déclaration de succession révélera que le gendarme vivait chichement grâce à 22 arts de terre, donc 2200 m², une vigne et un jardin acquis à crédit vers 1848. C'est Hippolyte Minier qui enregistre l'acte de naissance d'Azeline Marie Léocadie le 7 décembre 1839.
Sa seconde Hippolyte fille. Minier étant le maire de Mézières.
Non, c'était pas le maire.
Ah, c'était pas le
non,
maire.
Non, c'était pas le maire. Il faisait office de ce qu'on dirait maintenant secrétaire de mairie.
D'accord.
Mais il n'était pas le maire.
D'accord.
Le couple n'aura d'autres enfants que leurs deux filles. La vie s'écoule doucement dans cette Brenne encore enclavée entre propriétaires terriens et le petit peuple qui trime pour survivre, surtout l'hiver, si les récoltes n'ont pas été assez favorables l'été qui précède. Fin 1844, le bourg est agité par la fondation d'un cercle hippique à l'initiative du comte de Lancombrève et d'Henri Navelet. Les deux hommes aménagent un hippodrome sur des terrains gracieusement mis à leur disposition sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne. Les courses inaugurales se déroulent au mois de juin 1845 sous la houlette du comte, cavalier émérite et grand passionné d'équitation. 11 000 spectateurs seront présents pendant 2 jours. Jamais Mézières n'a connu une telle affluence et ne le reconnaîtra jamais.
Oui, il convient de préciser que Mézières et Saint-Michel-en-Brenne se touchent.
Quasiment, oui. Enfin, il y a 3-4 kilomètres entre les deux.
Mais
on était à la sortie de Mézières. Donc, alors, le comte se posait la question, comment promouvoir et faire venir la bonne société parisienne au cœur de la France pour assister aux solennités hippiques organisées avec faste les 7 et 8 juin 1846.
Oui, rappelons que Gérard Coulomb, bien connu des auditeurs, a écrit un fort bel ouvrage richement documenté sur ce cercle hippique qui n'a malheureusement perduré que quelques années. Quelle idée a donc eu le comte de Lancombrève en ce début d'été ?
Eh bien, tout simplement d'inviter Georges Sand. Alors, la plume tant appréciée de la bonne dame de Nohant est inespérée pour faire paraître des articles élogieux sur ce formidable hippodrome. Ni une ni deux, le comte de Lancombrève fait dépêcher une voiture et quelque peu contrainte, Georges, sa fille Solange et une petite cousine arrivent la veille des courses, comme elle l'a si bien dit, à moitié cuit pour dîner au château de leur hôte. Probablement trop affairé au bon déroulé de cette manifestation d'ampleur, le comte oublie quelque peu sa prestigieuse invitée qui se retrouve à chercher une chambre à Mézières pour passer la nuit du 7 au 8 juin. Elle raconte, et elle a raconté donc dans une lettre que je vous cite texto, « À Mézières, qui est une bicoque, on loge où on peut. Nous avons couché dans le lit du brigadier de gendarmerie appelé M. Goret, non pas avec lui. » Le brave homme avait été dormir au foin avec son épouse, laquelle porte un petit bonnet de grisette et une grande plume verte d'une oreille à l'autre, et ses deux petites filles charmantes qui nous avaient prises en passion. Mais Georges Sand a dormi avec les innombrables et superbes puces qu'ils avaient nourries de leur sang. C'est féroce, la puce de gendarme. Ça porte un sabre et des buffleteries. C'est une variété jusqu'ici inobservée, mais sur laquelle je compte écrire un mémoire. Cette phrase est restée très célèbre, dans Mézières et les environs. Ce texte assurera une drôle de célébrité à l'attentionné gendarme qui avait gentiment donc accepté de prêter son matelas à l'une des plus grandes écrivaines libres du XIXe siècle. Par contre, Georges Sand n'a manifestement pas conservé un très bon souvenir de son unique passage dans la capitale brénouse, puisqu'elle n'y reviendra plus jamais. Les collègues de Timothée déclarèrent en mairie son décès à domicile le 4 septembre 1853. Il avait 53 ans, il laissa son épouse sans ressources et ses deux filles, respectivement alors âgées de 14 et 15 ans. Henri Senot, médecin et maire de la commune, a été désigné leur subrogé tuteur au terme d'un conseil de famille réuni le 22 octobre. Et c'est là que nous revenons à Léontine et Azeline.
Les deux filles,
mais il fallait bien commencer par cette intermède avec Georges Sand. Donc Léontine et Azeline ont été élèves chez les sœurs de l'Immaculée Conception à Buzançais. Elles en conserveront une foi inébranlable, c'est important pour la suite. Il est certain que cette famille a définitivement quitté Mézières pour monter à Paris, quelque temps après les obsèques du gendarme, probablement à l'initiative de Céline Pécate de la Burlerie, cousine de Marie Bénigne, la maman. Les trois femmes auraient alors travaillé dans une fabrique de chocolat. La sœur cadette attendait enfin de devenir modiste.
Bien, alors nous allons nous intéresser à la vie trépidante d'Azeline, Marie, Léocadie, la plus jeune, qui sera identifiée sous le pseudonyme de Léa Silly, plus avantageuse évidemment que Goret.
Eh oui, bien sûr. Alors, il a été dit d'elle qu'elle était gaie par tempérament, déjà très espiègle, véritable bout en train et ayant un timbre de voix prometteur. Léa entre dans les chœurs du Théâtre des Variétés avant de décrocher en 1863 un petit rôle de paysanne dans le vaudeville intitulé Les Médecins. À 24 ans, ça y est, sa carrière est lancée. L'année suivante, elle se fait remarquer dans Le Joueur de Flûte, une opérette de Jules Moineau. À une date inconnue, Léa décide de partir aux États-Unis en compagnie d'Aimé et de Céline Montalant pour une saison de 6 mois et avec un cachet de 72 000 francs, ce qui était énorme à l'époque.
Ouais.
Le meurtre du commanditaire de la troupe la désorganisa tant et si bien que la Berrichonne décide de découvrir l'Amérique lors de vacances forcées. Et je vous rappelle que nous sommes en 1864, elle part comme ça aux États-Unis découvrir le pays. Donc, parlant parfaitement l'anglais, elle parcourt de nombreux États entre Cincinnati et San Francisco, tout en allant présenter ses devoirs à Brigham Young, second président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, gérée par le mouvement mormon. Taquine, la Silly, sur la demande expresse du restaurateur chrétien de la polygamie, hein, je cite, quelque peu ignorant, interpréta une tyrolienne des plus excentriques en précisant qu'il s'agissait d'une œuvre de Mozart de Chatou, demeurant sur l'île de la Grenouillère. Rien ne l'arrêtait, hein, cette fameuse Léa. De retour à Paris, elle embrassa le rôle d'Oreste dans La Belle Hélène d'Offenbach. L'une de ses plus belles interprétations est le point culminant de sa carrière. Chaque soir, les spectateurs attendaient son jeu osé et sa mimique expressive dans un corps défait bien nourri et son galbe spirituel. Avec une délectation liée au ragot, les chroniqueurs de l'époque s'emparèrent avidement d'une altercation qui eut lieu dans les coulisses du théâtre entre Hortense Schneider et Léa Silly. Cette dernière, badine irrespectueuse, avait imité la chatouilleuse diva, déclenchant une querelle devenue célèbre qui entretint de longs mois les conversations amusées des salons parisiens.
Oui, il y a même des caricatures.
Eh oui. Ces affaires d'ego entre artistes n'empêchèrent pas Léa de chanter et de jouer dans de nombreux vaudevilles et pièces diverses, parmi lesquelles La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Péricole, Les Contributions indirectes, avec un rôle intitulé De la Vénus aux carottes, c'était quelque chose quand même à l'époque,
ouais.
Les Griffes du Diable, Coco, Les Farces de Pierrot, une pantomime, et ce pendant 25 ans. Et pour demeurer dans cette ambiance des folles soirées parisiennes, je vous propose d'écouter, pour faire une pause, des extraits de cette fameuse Grande-Duchesse de Gerolstein, un opéra bouffe d'Offenbach interprété au Grand Théâtre de Genève. Cet extrait était pour vous mettre dans l'ambiance des théâtres de l'époque et des vaudevilles surtout. Donc Léa était très courtisée par les hommes, le plus souvent riches. En cette seconde moitié du 19e siècle, l'accès au théâtre restait réservé aux plus nantis.
Oui, on peut se poser la question de savoir si elle était une demi-mondaine, hein, l'une de ces femmes que l'on nommait aussi cocotte ou grande horizontale, tout un programme. À cette époque, leur statut oscillait entre prostituées de luxe et maîtresses entretenues par de riches parisiens, bien entendu.
Alors, a priori, non. La police des mœurs, qui était très active à l'époque, ne l'a jamais répertoriée comme telle, même si elle fréquentait Blanche d'Antigny, donc née à Martizet et ayant probablement passé sa petite enfance à Mézières, et qu'elle ait hébergé en 1873 la Mariani, qui elle était bien fichée, à la suite d'un différend avec l'un de ses amants. Descendant les boulevards habillés en homme tout en fumant, Aseline, de son premier prénom, ne laissait pas indifférente. Hormis son sens de la répartie et un parler rude, un livre la décrit ainsi. À la ville, elle était courue et courait assez volontiers. Elle s'y montrait très assidue et excellait à intriguer la fleur des cavaliers de la haute vie. C'est bien dit. Du prince égyptien au cubain rencontré aux États-Unis, à un jeune anglais en passant par un baron peu scrupuleux qui lui vola ses bijoux heureusement restitués, la vie affective de cet artiste peu conventionnel a défrayé la chronique des journaux de l'époque, avide d'histoires rocambolesques, mais bien réelles malgré tout.
Ouais, c'est pas loin de la demi-mondaine quand même. Hein.
Pas loin quand même, mais bon. Moi, je ne l'ai pas retrouvé aux archives, répertoriées aux archives de la préfecture de police à Paris, qui est en fait auprès Saint-Gervais.
Ouais.
Léa semble s'être épanouie dans cette vie entre loge, salon et sept costumes et personnages excentriques. Ses confortables cachets lui offrirent une existence aisée qui la conduisit à demeurer au 41 rue Lafayette dans le 9e arrondissement à Paris, dans un très chic immeuble haussmannien, proche des théâtres des variétés et de la Porte Saint-Martin qui l'accueillirent pendant tant d'années. Elle se dota d'un blason avec ses initiales entrecroisées et d'une devise latine, sic volo, donc je veux, bien appropriée à sa forte personnalité. Ces signes distinctifs ornaient chacun de ses courriers. Autre anecdote curieuse, le chiffre 3 lui était insupportable, jusqu'à fumer 2 ou 4 cigarettes, mais jamais 3. À l'âge de 65 ans, la comédienne quitte la vie parisienne et rejoint la campagne à ce qui était à l'époque encore la ville d'Avray, donc aujourd'hui dans le 92. Elle emménage comme locataire dans une jolie maison à étages surnommée le Chalet, 622 chemin de la Côté d'Argent. Sans certitude, elle aurait aussi demeuré à Sèvres.
Oui, ben on a des, tu as des photos du Chalet.
Oui.
C'est très chouette.
Absolument. Léa correspondait régulièrement avec sa filleule, Madame Lay. À l'occasion de la communion solennelle de celle-ci en l'église de Mézières, l'artiste, aux grandes dames des fidèles présents, aurait pris place dans l'une des stalles situées de part et d'autre de l'autel. À cette époque, seuls les hommes pouvaient s'y installer. Sacrilège. Profondément croyante, je vous rappelle qu'elles avaient qu'elles avaient poursuivi leurs études donc à l'Immaculée Conception à Buzoncay.
Ouais.
Elle avait fait don d'une magnifique chasuble au prêtre qui officiait, d'une nappe d'autel, d'un voile de tabernacle et d'un grand tapis de cœur. J'aurais vraiment voulu être une petite souris pour voir un petit peu dans l'église
ce que ça pouvait
cette
donner.
Léa arrivant majestueuse, j'imagine. Enfin, ça devait être quelque chose quand même. C'est dans l'une de ses lettres que Léa annonce la mort sous ses yeux de son mari. Alors, je le mets entre guillemets, mari. Donc, Gilbert Cuel, 66 ans, architecte décorateur, spécialisé en pierres unies, moulurées et sculptées, et en revêtements et colonnes en mosaïque de nacre. Il existe aux États-Unis deux bâtiments, hors du commun, dont il contribua à la décoration fastueuse. Alors, j'ai jamais pu retrouver exactement s'il s'était marié ou pas. Il aurait convolé uniquement religieusement, donc en Belgique, à Bruxelles ou à Spa, et il se serait marié, entre guillemets, mais jamais officiellement. Très affectée par cette perte subite, malade, quasi ruinée, Aseline Goret décédera à son domicile 11 mois plus tard, le 7 juin 1917, à l'âge de 77 ans.
Donc voilà pour Aseline. Léa Silly avait une sœur aînée qui semble avoir suivi à peu près la même destinée, n'est-ce pas ?
Absolument, exact. Très proche de sa sœur cadette, la vie de Léontine, Irma Philomène Goret, a été un peu moins agitée, bien qu'elle ait aussi répondu aux sirènes parisiennes. Née à Saint-Fulgent, je le rappelle, le 30 septembre 1837, cette aînée d'un peu plus de 2 ans ne connaîtra dans son enfance que Mézières et la Brenne, ses parents y ayant déménagé quelques mois après sa naissance. Aucune information n'a été retrouvée dans les archives permettant de savoir comment Léontine est devenue artiste lyrique et dramatique. Elle a embrassé des rôles de princesse dans d'étincelants costumes de scène au Châtelet, de fée au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bien qu'elle n'ait pas été considérée officiellement comme une demi-mondaine, un certain Z dans le demi-monde sous le Second Empire décrit ainsi celle devenue la Delval, son nom d'artiste.
Oui.
Alors, je cite, « Grande comme un tambour major, et admirablement faire malgré cela, très plastique, très en chair, très voluptueuse, très belle, elle avait une physionomie placide et sans expression, qui ne paraissait révéler qu'une intelligence des plus ordinaires. » Pas très sympa. Le maillot et le nu, relevés par une ornementation savante, avaient été élevés par elle à la hauteur d'une institution. Jamais on n'a rien vu de plus éblouissant et de plus tranquillement impudique.
Élogieux, mais ambigu.
Oui, absolument. Gabrielle, donc de son nouveau prénom pseudo, ne laissait pas la gente masculine indifférente, tout comme sa sœur. Les spectateurs qui venaient l'écouter et l'admirer au théâtre des variétés et du gymnase se réjouissaient de ses toilettes cristallines. Il ne faut pas omettre ses qualités d'actrice reconnue, au point que George Sand aurait souhaité la faire venir à Nohant pour qu'elle y exprime son art et participe probablement au dîner proposé à ses prestigieux convives. C'est à l'âge de 43 ans que Léontine épouse à Genève, le 30 juillet 1981, Tanneguy de Vaughan, un bien curieux personnage.
Effectivement.
Oui. Aventurier, inventeur, journaliste et écrivain, il est le fils d'Édouard qui, lui aussi, a eu une vie extravagante, faite de mensonges et de titres d'emprunt. Tanneguy est le fondateur de la Société végétarienne de France et, accrochez-vous, l'inventeur constructeur d'un bateau en papier. Le qui-vive, avec lequel il effectua entre 1984 et 1986 un périple à la pagaie sur différents cours d'eau et mer. On se demande même comment tout cela était possible.
Ouais.
Il a été condamné pour diffamation pour ses écrits dans le journal ultra-royaliste, le Triboulet, dont il était le gérant. Le divorce est prononcé à Paris en mars 1988.
C'est quand même des personnages extraordinaires.
Eh oui, à l'époque. Hein. La Delval montera sur les plans jusqu'en 1893 au Théâtre des Menus Plaisirs, donc le futur Théâtre Antoine. Tout comme sa sœur, elle demeure au centre de Paris, au 1 rue Blanche dans le 9e également, dans un bel appartement de type haussmannien, à quelques encablures de tous les théâtres. Léontine y décédera le 24 mai 1919 à l'âge de 81 ans en léguant une somme de 6 000 francs à la filleule de sa sœur Léocadie.
Et tu sais pas dans quel état financier elle était.
Eh non, on a quand même pas tout. C'est déjà extraordinaire d'avoir retrouvé tout cela, mais on essaiera d'expliquer après pourquoi et comment surtout.
D'accord.
La fratrie, leur mère, ainsi que la cousine de cette dernière qui les aurait accueillis dans la capitale, sont enterrés ensemble dans une chapelle funéraire située dans le cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine, qui, à l'instar de celui du Montparnasse, accueille les sépultures de nombreux artistes et personnalités de la fin du XIXe et du XXe. Et en conclusion, je dirais que la liberté est le premier mot qui me vient à l'esprit pour résumer la vie de ces femmes. Elles étaient libres de voyager, de s'habiller comme elles le souhaitaient, de pratiquer leur métier avec expièglerie, je vais y arriver, et désinvolture pour l'une, avec la parfaite conscience de ses formes avantageuses pour l'autre. Tout aussi libres de leur fréquentation. Ces filles de gendarmes ont saisi toutes les opportunités que leur offrait le flamboyant Paris du Second Empire, à la belle époque, en croquant la vie à pleines dents. N'ont-elles pas été à bonne école avec George Sand ?
Eh oui, merci Chantal de nous avoir conté ces deux parcours de vie tout à fait étonnants pour l'époque. Quand on pense qu'elles sont parties de Mézières pour devenir, faire partie des artistes les plus célèbres de leur époque. Tous ces parcours ont pu être reconstitués grâce à des documents conservés aux archives départementales de l'Indre, un allié précieux et indispensable évidemment pour les historiens. Pour conclure, je rappelle que l'Assemblée générale des Amis du Blanc aura lieu le mardi 27 janvier prochain à la salle Carnot, rue Pasteur. Vous y êtes tous aimablement conviés à 18h. La prochaine chronique sera consacrée à un personnage complètement différent et un petit peu détonnant par rapport à ce qu'on fait habituellement, puisqu'il s'agira de Paul Bas, champion du monde de moto, l'an dernier. Donc, ce n'est pas de l'histoire ancienne, cette fois-ci.
Alors
pour terminer, Chantal.
Alors pour terminer, je vous propose, ça tombait à point nommé, d'écouter une chanson que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Femme libérée du groupe Cookie Gingler, donc Christian Dingler est le compositeur et l'interprète. Au mois prochain, à bientôt.
Merci.
Prêter cher, le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée.
ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Chaque fois qu'elle sort, même quand elle est dit qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile.
Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout, elle aime raconter qu'elle fait changer une roue. Enfants, écoute même un petit joint de temps en temps.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non.
C'était
l'émission Dans le rétro. Dans le rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean, en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire, c'est de l'émission Dans le rétro.